L'une de mes toutes premières interviews, bien avant la création de Volant, date de 2011. J'étais à San Francisco et j'avais eu la chance de croiser la route d'un des fondateurs de Airbnb. Si vous cherchez sur un moteur de recherche, vous verrez que je n'étais pas très doué à l'époque d'ailleurs. Mais j'étais impressionné et ravi car j'ai toujours trouvé la capacité de Airbnb à créer une communauté de partage vraiment incroyable. Et donc depuis, l'appartement dont je suis propriétaire a toujours été sur Airbnb pour les moments où je suis en vacances ou simplement absent, car cela me permet d'arrondir les fins de mois. Avec ce supplément de revenus, je peux partir en voyage au Japon en 2016 par exemple, sans doute l'un de mes plus beaux voyages. Donc si vous avez une chambre de libre ou si vous partez en week-end, vous avez sans doute vous aussi un Airbnb. Pour découvrir combien pourrait vous rapporter votre logement, rendez-vous sur airbnb.fr/hôte. C'est airbnb.fr/hôte. H-O-T-E. Allez, place à l'épisode maintenant. Évidemment, en ce moment, toute l'actualité est tournée vers l'Ukraine, et c'est bien naturel. On pense évidemment beaucoup aux familles là-bas. Mais en France, on a une élection présidentielle qui arrive, et l'un des thèmes majeurs de cette campagne a été la sécurité. De mon côté, je suis pas certain que ça soit le thème le plus important. Vous le savez, je pense que l'écologie a une importance bien plus majeure. Mais quand on parle de sécurité, on est obligé de penser au djihadisme. Et le djihadisme, il a une réalité en France et de manière plus générale en Europe. C'est un problème central dont il faut parler. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir une nouvelle fois Hugo Micheron, qui est un enseignant-chercheur à l'université de Princeton aux États-Unis et à Sciences Po. Et avec lui, on va se poser la question de l'histoire du djihadisme en Europe, comment il s'est construit, mais aussi quel est son avenir. Essayer de comprendre la différence, évidemment, entre la religion, l'islam et le djihadisme, mais de manière plus approfondie, de vraiment poser les termes du débat de manière intelligente. Donc de ne pas ignorer la problématique du djihadisme, mais pas non plus de confondre musulmans, par exemple, et djihadisme, ou migrants et djihadisme. C'est une conversation qui est extrêmement importante en réalité. Vous aviez déjà adoré le premier épisode, je le sais, donc je vous laisse l'écouter. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Hugo.
Bonjour.
Ça fait plaisir de te parler à nouveau. On avait déjà fait un épisode sur le djihadisme. La première question qui me vient naturellement, c'est pourquoi tu publies une nouvelle note aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est... Explique, est-ce qu'il y a des raisons particulières pour publier cette nouvelle note ?
Salut Greg, merci de me recevoir, c'est un plaisir. Bonjour à toutes et à tous. En fait, donc je publie ce petit tract dans la collection, donc c'est un petit feuillet de 60 pages chez Gallimard dans la collection Tract sur le djihadisme européen, et le but c'est une sorte de note d'étape de mes recherches que j'entreprends depuis 2 ans à l'université de Princeton sur l'histoire du djihadisme européen, parce qu'en fait je me suis rendu compte qu'aussi bizarre que ça puisse paraître, il n'y a pas d'histoire du djihadisme européen qui a été écrite et publiée. Et c'est particulièrement surprenant sur un sujet qui est vraiment régulièrement dans l'actu, qui concerne quasiment la totalité des pays européens, qui a des répercussions politiques extrêmement importantes. Quand on se plonge un peu sur l'étude du phénomène et la bibliographie, quoi... il y a des livres sur Al-Qaïda en Europe, sur les attentats en Espagne, sur tout un tas de sujets, mais à proprement parler, une histoire du djihadisme européen, on n'en a pas. Et donc du coup, j'ai un peu utilisé aussi le temps qu'on avait à disposition pendant le Covid, où finalement le terrain n'était pas possible, à part le terrain virtuel, pour me plonger dans les immenses ressources à ma disposition à la bibliothèque de Princeton. Et en puisant donc dans les sources secondaires, j'ai fini par sortir un certain nombre d'éléments qui permettaient de mettre les échafaudages ou les premières fondations de cette histoire du djihadisme européen. Et puis là, depuis plusieurs mois maintenant que le terrain rouvre, j'ai l'occasion de faire des entretiens un peu partout en Europe sur le sujet, et donc de venir combler, de construire l'édifice. Et on va dire que ce tract en 60 pages, c'est un condensé de ce qu'on peut comprendre de l'étude de l'histoire du djihadisme européen.
Et ce que j'ai découvert à la lecture, c'est qu'il y a une Il y a une vraie différence qui se fait entre les pays. En particulier, alors il y a cette phrase que tu reprends qui dit « Le Danemark ne produit pas de djihadistes qui se révèle fausse ». Mais par contre, il y a un pays comme l'Italie qui en produit assez peu finalement. Est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les différences? Parce qu'en France, par exemple, il y a une grosse population, en l'occurrence. Mmh. Et est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi et comment ça se construit, tout ça?
Bien sûr. En fait, ce qui est assez intéressant quand on regarde les débats dans les différents pays européens qui sont touchés par le djihadisme, c'est que chaque pays pense que c'est lié à ses spécificités. C'est-à-dire, on va en France, pour tous les Français qui nous écoutent, les Françaises et les Français, spontanément on va dire bah oui c'est à cause de la colonisation éventuellement tout le débat qui va porter autour de la laïcité inclusive ou exclusive, ça va être aussi on va regarder du côté du racisme, des discriminations, de la question des banlieues, etc. Mais en Angleterre finalement les débats portent sur ce qu'ils appellent le communalisme, c'est-à-dire le système plus communautaire britannique, sur un certain nombre d'éléments mais vraiment propres aux British. En Allemagne pareil, la question va porter sur la question de l'intégration des populations d'origine turque. Au Danemark, où il n'y a pas d'histoire coloniale, le débat porte sur l'identité danoise qui serait... Et en fait, on voit que chacun reformule selon son propre prisme des éléments explicatifs. Mais quand on regarde la réalité du phénomène djihadiste, on se rend compte qu'elle est la même dans ces différents pays, ce sur quoi on va revenir, j'imagine, dans un instant, indépendamment des spécificités de chaque pays. Donc, moi, c'était le point de départ. Donc, en fait, j'ai commencé simplement par me dire, OK, c'est quoi les chiffres? Et c'est idiot, mais c'est quand même un point de départ qui est souvent oublié dans le débat public. Donc, en fait, ça donne la chose suivante. Si on utilise les départs pour la Syrie et l'Irak au moment du pic de Daesh, donc si vous voulez, autour de 2014-2015, comme un bon indicateur, on va se rendre compte qu'il y a à peu près 6000 Européens, et donc j'inclus encore le Royaume-Uni dans l'UE, puisqu'ils y étaient encore, c'était avant le Brexit. Et donc, on a 6000 Européens qui ont rejoint Daesh, en fait. Sur ces 6000, on en a près de 90% qui sont originaires de 7 pays. Et ces pays sont quasiment tous, ce sont tous des pays d'Europe du Nord-Ouest. Donc, par volume, on a d'abord la France, qui a ses 2000 de ces 6000 Européens. Ensuite, le Royaume-Uni, l'Allemagne, 1000 chacun. Ensuite, on a la Belgique, entre 500 et 600. Après, on a les Pays-Bas, le Danemark, la Suède, et on peut rajouter aussi l'Espagne. Donc tout ça, c'est à peu près 6000. C'est important déjà de comprendre qu'il y a ce phénomène de concentration en Europe du Nord-Ouest. Et effectivement, l'Italie, dans ce schéma général, est assez peu représentée. Au total, on a un peu plus d'une centaine d'individus qui étaient résidents en Italie qui ont rejoint Daesh. Donc, c'est déjà, par exemple, près de deux fois moins que la Suède, alors que la population italienne est beaucoup plus grosse. Mmh. Et puis, si on prend vraiment que ceux qui ont la nationalité italienne, alors là, je crois qu'on tombe à une petite dizaine. Donc, en fait, l'exception, elle n'est pas française, l'exception, elle n'est pas danoise, elle n'est pas britannique, comme tous les débats publics finissent par le penser ou par le faire croire. L'exception, s'il y en a une en Europe, elle est italienne. Et ça, j'ai pas encore tous les éléments, j'ai des hypothèses, mais j'ai pas tous les éléments pour l'expliquer. J'ai plus d'éléments pour expliquer la situation dans les autres pays.
Et ce que tu décris, c'est aussi que le développement, il n'est pas exogène, il est endogène. Ouais. Ça, c'est un point hyper intéressant parce que je pense que c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre.
Oui, et encore une fois, dans tous ces débats, il y a un certain nombre d'idées reçues qu'il faut casser pour justement rentrer dans le concret du sujet et s'attaquer, j'ai envie de dire, à la sève de l'explication, toucher la sève de l'explication. Le premier élément, c'est qu'on a tendance à penser que le djihadisme, c'est un phénomène qui est extérieur à l'Europe. C'est-à-dire que ça a été, donc typiquement, ça donne sa traduction dans le débat public porté par l'extrême droite, c'est le djihadisme, c'est les migrants. Ou le djihadisme, c'est des étrangers qui viennent répandre la haine, etc. La réalité, c'est qu'en fait, plus ou moins depuis 2001, en fait, depuis le 11 septembre, il y a un mouvement qui s'est développé en Europe et qui a été porté par des Européens. Et c'est toute la spécificité de l'Europe, c'est que désormais, les têtes de gondole djihadistes, les idéologues, etc., sont des individus qui sont nés, qui ont grandi en Europe, qui ont été socialisés en Europe. Et effectivement, le phénomène, de fait, est endogène. Et d'autant plus que depuis Daesh, depuis 2014-2015, on a atteint des plateaux. On a suffisamment maintenant, malheureusement, d'activistes pour que eux-mêmes soient éventuellement des diffuseurs de cette idéologie. Tout ça, c'est une question de palier, en fait. Dans les années 90, il y en avait quelques dizaines. Au milieu des années 2000, au moment de la guerre en Irak, on était à quelques centaines, et 10 ans plus tard, avec l'avènement de Daesh, on est à plusieurs milliers. Et donc, c'est ces tendances qu'il faut comprendre. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le phénomène sur la même période, sur ces 3 décennies, il a aussi changé de nature. Et on est passé d'un phénomène djihadiste qui était au début des années 90 essentiellement porté par des individus qui revenaient d'Afghanistan, qui étaient d'ailleurs pas du tout perçus comme des terroristes. On était avant le 11 septembre, c'était des individus qui avaient fait le djihad contre les soviets en pleine guerre froide au milieu des années 80. Et donc, ils avaient trouvé l'exil en Europe, d'ailleurs souvent en Angleterre. Et ils étaient plutôt perçus comme des exilés politiques qui avaient plutôt servi les intérêts de l'Occident parce qu'ils avaient lutté contre l'URSS en Afghanistan. Désormais, après le 11 septembre, là, il y a un changement de regard, et pour cause, certains de ces individus ont diffusé des thèses djihadistes parmi les populations européennes. Mais le changement, il intervient aussi parce que désormais, ce sera des Européens qui vont porter la chose. Et ça, de ce point de vue-là, le 11 septembre, puis la guerre en Irak, va créer un mouvement d'européanisation, en fait. Des premiers réseaux, qui à l'époque, c'est des toutes petites cellules, mais qui vont être actives et qui vont en fait, dans certains cas, réussir à créer des groupes plus larges.
Et est-ce que ça veut dire qu'il y a une mauvaise intégration des musulmans en France? Parce qu'en fait, on va aller évidemment sur ces discours de l'extrême droite, du grand remplacement. Et d'ailleurs, j'aimerais bien que tu m'expliques pourquoi l'extrême droite, et ça peut sembler un peu étrange ce que je vais dire, mais pourquoi l'extrême droite et les djihadistes, ils ont finalement des intérêts communs, quelque part.
Ouais, alors il y a plein de questions, et je pense que la meilleure manière pour moi de les aborder, c'est déjà de reprendre ce petit travail, si tu veux, besogneux, mais où on va casser toutes les coquilles qui enferment le débat public. Indispensable. Donc là, j'ai évoqué un des aspects qui était de ne pas comprendre qu'en fait, ce phénomène désormais est endogène à l'Europe. On en verra les implications tout à l'heure. L'autre aspect qui convient de comprendre, c'est que le développement du djihadisme a des causes multiples. Et là, on fait face, encore une fois, à pas mal d'écueils dans le débat public. L'un des réflexes les plus récurrents, c'est de dire, finalement, le djihadisme, c'est le produit de la marginalisation. C'est-à-dire, il y a de la marginalisation économique, de la marginalisation politique ou culturelle ou raciale ou religieuse. Et donc, des individus, face à ce qu'ils considèrent comme une injustice, ont besoin de se rebeller. Et le djihadisme leur offre soit le moyen, soit le prétexte. La réalité, c'est que les facteurs de marginalisation de toute nature jouent un rôle, mais n'explique en rien à elle seule le phénomène. Et là, si on retourne à notre géographie, on peut reprendre ces 7 pays que j'évoquais qui ont fourni 90% des départs de Daesh. Et on avait donc, on a dit à l'instant qu'il y avait un phénomène de concentration dans ces 7 pays. Mais en fait, ce phénomène de concentration, il s'observe à tous les niveaux dans chacun de ces pays. C'est-à-dire, si on reprend ces 7 pays, dans chacun de ces pays, on va voir qu'il y a certaines zones qui sont très touchées par les départs et d'autres pas du tout. Donc, on a une vingtaine de zones en France qui sont très touchées, qui concentrent la quasi-totalité des départs, une quinzaine en Angleterre, quinzaine en Allemagne, à peu près une demi-douzaine en Belgique, aux Pays-Bas, en Suède, au Danemark, etc., etc. Et dans chacune de ces zones concernées, donc ces villes, on va voir encore une fois un phénomène qui va se concentrer dans certains quartiers. Et si on zoome encore plus, on va voir que c'est un certain environnement. Et ça, c'était ce que j'avais mis en avant dans mon premier livre qui s'appelait « Le djihadisme français pour la France ». Mais ce qui est très surprenant, c'est qu'en fait, ce cadre, c'est un cadre général qui vaut non seulement pour les différents pays européens, mais à vrai dire, si on se réfère à une thèse qui vient d'être défendue à l'université d'Oxford par un certain Nate Rosenblatt, qui est aussi à Princeton, on observe le même constat aussi au Moyen-Orient. Dit autrement, on serait face à un mode de diffusion quasiment universel du djihadisme, c'est-à-dire dans des microcosmes, dans certains endroits, par diffusion idéologique à partir d'un certain nombre d'acteurs. Et donc là, on voit bien qu'une fois qu'on arrive sur ces zones, ce qui devient important, c'est aussi la dimension militante. Et celle-là, elle est totalement oubliée du débat public, c'est-à-dire qui sont les djihadistes, qu'est-ce qu'ils font localement, et quand est-ce qu'ils sont arrivés, et à quel moment. Et donc en fait, on a une géographie à laquelle il faut rattacher une histoire, et il faut donc remonter dans le temps pour essayer de comprendre pourquoi une ville, c'est l'exemple que j'avais souvent pris il y a 2 ans au moment de la sortie de mon livre, pourquoi une ville comme Trappes a été énormément touchée par les départs, et 80, enfin un peu moins, autour de 65 départs selon les chiffres officiels, entre 2012 et 2018 pour la Syrie, alors que Chanteloup-Lévin, séparé par un bras de Seine qui est en tout point comparable au niveau socio-éco, violence, délinquance, taux de chômage, etc., population, démographie, il y en a zéro. Et en fait, cette différence entre Trappes et Chanteloup-Lévin, on la retrouve quasiment dans tous les pays européens, dans les mêmes termes. Donc, et à chaque fois, l'élément qui distingue une ville ou l'autre, c'est la présence d'acteurs djihadistes qui ont essaimé en visant explicitement les populations musulmanes, et ils se sont installés dans ces villes soit par un peu par hasard, enfin parce qu'ils avaient des liens éventuels avec, sur place, soit parce qu'ils l'avaient particulièrement ciblé, parce qu'ils s'étaient rendu compte qu'il y avait la présence d'autres mouvements islamistes, que ce soit des mouvances proches des frères musulmans, des salafistes, d'établir. Et ça, cette géographie-là, généralement, on l'a pas en tête. Alors que parmi les djihadistes que j'ai rencontrés en détention, eux, ils étaient très clairs. Ils disaient, bah, dans tel quartier, c'est plutôt telle mouvance, donc on y va, on approche différemment ce quartier-là de tel autre, etc. Et une fois qu'on a ça en tête, ben, c'est comme ça qu'on arrive à mieux comprendre, par exemple, qu'une ville comme Ulm, dans le sud de l'Allemagne, une région qui n'est pas du tout pauvre, hein, c'est ce qu'on appelle la tech belt, c'est vraiment, on va dire, plutôt une zone dynamique économiquement, où il n'y a pas d'histoire de marginalisation, de violence envers les communautés musulmanes locales, où le taux de chômage est pas mauvais. Enfin, c'est pas du tout Molenbeek, quoi. Il y a pas de problème notoire à Ulm, et pourtant c'est la ville de la première cellule djihadiste allemande, composée à 100% d'Allemands, qui va voir le jour autour de 2003-2004, qui s'appelle le groupe de Sauerland, du nom des plateaux dans lesquels ils s'entraînaient pour le djihad en Irak et en Afghanistan. Et donc c'est très intéressant d'avoir Ulm en tête, mais aussi d'avoir Anvers en Belgique, qui est la ville la plus riche de Belgique, où il y a eu beaucoup de départs pour la Syrie et l'Irak, par opposition par exemple à la Wallonie, ces régions francophones désindustrialisées, très touchées par le chômage, où comparativement à Anvers, il y a très peu de départs. Et donc, il faut se s'outiller en fait d'autres éléments explicatifs. Dire ça revient pas à exclure la dimension économique, sociale, culturelle, religieuse. Au contraire, ça revient à la combiner avec d'autres. Mais par contre, il faut aller dans cette subtilité là au risque de ne plus rien comprendre en fait.
Et quand je disais tout à l'heure que l'extrême droite et les djihadistes avaient des intérêts communs, est-ce que tu peux nous expliquer ça rapidement?
Merci de la
réponse. Non, mais j'y tiens parce que c'est important de comprendre la logique qui est identique. Et en particulier que finalement, c'est les musulmans qui payent le plus cher de leur vie.
C'est hyper important de comprendre que à partir du moment où les djihadistes sont européens, ils savent se positionner dans un débat public qui est européen. Et ils en comprennent les tenants et les aboutissants. Et ils sont pas tous en capacité de disserter sur la politique intérieure de l'Allemagne ou du Danemark. Mais par contre, il y a toujours parmi eux des individus qui sont outillés pour comprendre. Et tout simplement parce qu'ils sont, encore une fois, totalement européens et donc totalement socialisés dans ces univers mentaux, politiques, etc., européens. Et donc, ils savent se positionner dans le débat public. Et d'une manière générale, ils bénéficient un peu de deux approches caricaturales de leur situation. Il y a l'approche de l'extrême droite, communément diffuse d'ailleurs, pas qu'en France, qu'on va retrouver encore une fois dans toutes les extrêmes droites européennes, qui en gros considère que le problème, c'est l'immigration musulmane et que finalement, les djihadistes sont tout simplement les dignes représentants de ce qu'ils considèrent être l'islam, c'est-à-dire des gens ultra-violents qui prônent la destruction de l'Occident, etc. Et donc pour eux, ils vont en fait tomber dans le piège que tendent les djihadistes à l'Europe, de manière générale aux démocraties, c'est-à-dire de se prétendre les dignes représentants de l'islam et de dire « regardez, nous ce qu'on fait, c'est l'application juste de la loi religieuse ». Et en fait, on l'entend très bien dans le propos d'un candidat comme Zemmour, par exemple. Pour lui, le djihadiste, c'est le bon représentant de l'islam. Il l'a dit plusieurs reprises. Il va dire, pour moi, c'est ça l'islam. Et en fait, il tombe dans le piège parce que, on parle de 6 000 djihadistes en Europe, probablement plus si on compte les sympathisants, etc. Mais à l'échelle d'une population de plusieurs millions de musulmans. Rien qu'en France, on est entre 4 et 6. Donc, c'est totalement absurde d'utiliser les revendications d'un groupe ultra-radical qui se prétend représenter une religion d'un milliard cinq de fidèles sur Terre et de leur donner ce crédit-là. Enfin, en tout cas, de faire comme si ça s'imposait dans le débat public. Et donc, en fait, en faisant ça, l'extrême droite, alors de bonne foi ou de mauvaise foi, mais donne un effet de levier considérable à ces individus en leur reconnaissant la prétention à incarner l'islam. Et donc, du coup, ils avalisent ce que font les djihadistes pour se justifier, c'est-à-dire de dérober tout un tas de symboles qui ne sont pas les symboles des djihadistes, qui sont les symboles de l'islam. Mmh. On le voit très bien, le drapeau de Daesh, par exemple, c'est le sceau du prophète. Le sceau du prophète, ça n'appartient pas aux djihadistes. Et pourtant, si vous mettez le drapeau noir avec le sceau du prophète dessus, n'importe qui dans la rue, comme ça, après hasard, ils vont dire c'est un drapeau djihadiste. Et ils auront raison, puisque c'est Daesh qui le met en avant. Mais il n'empêche que c'est un détournement d'un symbole commun à l'ensemble des fidèles musulmans par une organisation extrêmement radicale. Et ça, si on avalise ce genre de choses, et on a tendance à le faire, mais l'extrême droite, elle, sans s'en rendre compte ou en s'en rendant compte, pousse à fond dans ce sens-là, en fait, on arrive à perdre absolument toute nuance et à donner un pouvoir que les djihadistes sans ça n'auraient pas forcément. Ça, ça me semble être un des premiers problèmes, c'est finalement de tomber dans cette logique identitaire qui est portée par l'extrême droite, entre autres. Après, il y a un autre écueil qui consiste à ne, pour les raisons inverses, c'est-à-dire souvent pour des questions de plutôt qui partent de plutôt de principes bienveillants, enfin c'est pour ne pas faire d'amalgame, pour au contraire éviter la stigmatisation, qui consiste à ne pas voir la réalité djihadiste, et notamment qu'il y a en France, en Europe, dans le monde musulman, des groupes islamistes, que ça existe, qui sont constitués, qui ont une pensée, qui ont une idéologie, qui ont des stratégies, etc. Et sous prétexte finalement d'éviter de faire du tort aux musulmans à parler de sujets qui sont crispants et qui hystérisent le débat public, on finit par ne pas en parler du tout et par ne pas voir en fait que ces individus non seulement sont actifs, mais du coup produisent des effets au sein de la population, au sein des communautés musulmanes européennes. Et typiquement, là je parlais de cette évolution sur les 30 dernières années, on se retrouve avec un problème avec des milliers de djihadistes européens au milieu des années 2010, parce que à un moment donné, il y a eu des activistes qui, sous nos yeux, j'ai presque envie de dire, dans un certain nombre de quartiers, au quotidien, organisaient des leçons, des cours, des séminaires religieux, etc., et qui n'étaient pas l'étude à proprement parler de l'islam, mais d'une interprétation extrêmement radicale et de diffusion des idées djihadistes. Et ça, si on ne s'en préoccupe pas, eh bien, on va se réveiller avec un problème. Et donc, en fait, les deux approches qu'on va retrouver un peu aux deux extrêmes de l'échiquier politique, là où elles convergent, c'est que dans les deux cas, l'une, finalement, ne voit que des djihadistes, et l'autre, à ne absolument pas les voir et à ne voir que des victimes qui se rebellent contre un système, finit par pas comprendre ce qu'ils font. Et dans les deux cas, en fait, on laisse les musulmans en pâture aux djihadistes, et en ne s'en préoccupant pas dans le deuxième cas et en ne voyant que dans le deuxième cas, en fait, on finit par coincer tout le débat public, le verrouiller et en fait à parler des mauvaises choses. Et donc, je pense que au milieu de cet étau, il y a une voie intermédiaire qui est délicate parce que maintenant les enjeux sont tellement énormes au niveau politique, parce qu'il y a quand même une menace sécuritaire, enfin, il y a des attentats régulièrement, etc., qu'on se retrouve finalement à devoir déblayer, et ça c'est le travail de la recherche, mais plus généralement j'ai envie de dire des citoyens hein, qui doivent s'emparer de ces éléments de compréhension pour réussir à se préoccuper de ce qui est une question de société qui appartient à tous les Français. Et ça, il faut pas croire que le djihadisme c'est un sujet sur le côté, que parce que c'est compliqué ou parce qu'on a peur de s'en emparer, finalement il faudrait le laisser à d'autres. C'est une question de société comme une autre, c'est un énorme enjeu. Et pour moi, si on est capable de parler des grands enjeux de cette époque, c'est-à-dire la guerre en Ukraine, le réchauffement climatique, ben on devrait être capable de se mobiliser aussi intellectuellement sur les questions comme le djihadisme et son avenir, quoi.
Et d'ailleurs, on a fait la même erreur sur le racisme et sur la gestion des colonies à l'époque. Il me semble, c'est que en fait, à ne pas vouloir en parler, ben, ça fait monter l'extrême droite, ça a fait monter, voilà. Mais un truc que t'as dit et qui me semble important, c'est quelque part quand l'extrême droite parle du grand remplacement, enfin en tout cas Zemmour, mais bon, Le Pen est dans la lignée, voire même, et ça, ça me fait encore plus peur, la droite classique qui commence à aborder des idées d'extrême droite, enfin pour moi en tout cas, pardon pour pour ceux qui votent à droite, en tout cas c'est comme ça que moi je l'envisage, en tout cas pour la candidate. Et en fait, en faisant ça, il renvoie, enfin quelque part, il renvoie ces musulmans, enfin ces personnes, vers le djihadisme, parce que le djihadisme, quelque part, ils disent, bah regardez, ils veulent pas de vous. Enfin, il y a aussi ce truc-là, non, quelque part.
Oui, ça c'est clair que en tout cas, il y a de la propagande en face. Donc, à chaque fois qu'il y a des âneries qui sont sorties, c'est utilisé. Ça, c'est le grand argument des salafistes notamment, qui est de dire, mais regardez, il faut désavouer cette démocratie qui vous rejette. C'est ça qu'on a du mal à comprendre. Souvent, quand on parle de radicalisation, de salafisme, de djihadisme, on dit oui, il faudrait développer du contre-discours. Mais ce qu'on ne comprend pas, c'est qu'en fait, le contre-discours, c'est eux qui le portent. C'est eux qui vont s'attaquer au discours républicain, au discours des valeurs dominantes dans les démocraties libérales européennes, en disant, regardez, tout ça n'est qu'un mensonge. Mais nous, on n'a pas à se définir par rapport à ce qu'explique Al-Qaïda ou Daesh de ce qu'est l'Europe. Ça, c'est, je veux dire, c'est comme si aujourd'hui, on se définissait, et évidemment, toutes choses égales par ailleurs, mais on prenait les justifications russes pour envahir l'Ukraine pour argent comptant en disant, bah oui, regardez, Poutine a raison sur tout. Non, c'est à un moment donné, il doit justifier ce qui est aux yeux de tous de l'ordre de l'injustifiable. Bon, les djihadistes vont se nourrir donc de ça, mais c'est à nous de nous déterminer, c'est à nous de comprendre ce qui se joue en France. Et ce qui m'inquiète, je veux dire presque en tant que citoyen sur la question du djihadisme, c'est qu'en fait, il y a très peu de réflexion publique. Il y a des anathèmes, il y a des grands discours, des slogans, donc le grand remplacement s'en est un. Et en fait, c'est des sortes de bulldozers qui érasent totalement le débat public, mais qui n'apportent aucun ni élément d'explication, ni possibilité de refaire société. Au contraire, ça divise. Et là, on le voit, la question, c'est aussi à un moment donné de comment on arrive à penser les sociétés européennes dans leur modernité, c'est-à-dire aussi avec une réalité qui est que désormais, l'islam est une religion européenne. Et en tout cas, c'est une religion qui s'inscrit en Europe et dont l'avenir, une partie de l'avenir s'inscrit en Europe. Et donc, si on n'arrive pas à s'approprier ces questions-là comme d'autres questions de société, eh bien, effectivement, on va toujours traiter ça à distance et on va mal le traiter. Et là, je crois qu'il y a une possibilité de se saisir de ce sujet. Et ça a été, on a parlé de la droite, mais il faut aussi voir que ça a été aussi provoqué, je pense, par une position à gauche qui a considéré, je parle au sens large, qui a eu tendance à considérer que parler de ces sujets, c'était mal, c'était faire monter l'extrême droite. Résultat des courses, on a mis un couvercle dessus, et puis à chaque fois que ça pète, l'extrême droite a un boulevard pour intervenir dessus dans le débat public. Et ça, c'est, je crois, que ce qui est plus possible de faire aujourd'hui, ce qui ne convient justement plus de faire, mais ça implique par ne pas laisser le monopole du débat public sur ces sujets à des forces qu'on considère être comme divisives. Et ça, c'est, voilà, je pense que là, il y a un rééquilibrage à faire, et pour ça, il faut de la connaissance. Et ce que je vous dis, moi, je l'ai vécu dans la recherche aussi, à ma modeste échelle, mais j'ai eu des discussions avec des collègues, j'ai eu des discussions avec des professeurs, des aînés, qui m'expliquaient que traiter de ce sujet, c'était par définition problématique, parce que tôt ou tard, ça allait être récupéré. Mais je veux dire, il y a un moment donné, pour casser la machine à fantasmes, il faut objectiver la réalité, il faut produire des diagnostics, sinon on ne pourra pas se plaindre, quoi. Et donc, je pense que c'est là, j'ai l'impression que l'évolution se fait, mais par contre, c'est vrai qu'on a perdu du temps, en fait.
Et je rappelle, je l'ai déjà dit, mais la majorité des victimes des djihadistes, ça reste des musulmans, enfin, juste pour...
Dans le monde, ouais, dans le monde,
ouais. Bien sûr. Tu parlais tout à l'heure de la Russie, bon, c'est l'actualité hyper chaude du moment, l'Ukraine, évidemment. On s'est beaucoup moqué sur les réseaux sociaux d'images qui disent que les djihadistes appellent à la paix entre la Russie et l'Occident. Est-ce que tu peux commenter ça, c'est-à-dire le lien entre la Russie, l'Iran, les djihadistes, etc. C'est aussi un point hyper intéressant. Je pense que par-delà les blagues, il y a une réalité derrière.
Ouais, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est déjà la méthode. Les djihadistes, ils ont, notamment depuis Daesh, depuis l'avènement de Daesh, donc au milieu des années 2010, ils ont pour habitude de se saisir de l'actualité du moment, surtout celle qui fait le buzz et qui génère du contenu, notamment sur les réseaux sociaux, et ils s'en servent comme marchepied pour gagner en visibilité. Donc, typiquement, les premières méthodes qu'on avait vues autour de 2014-2015, c'était, on voyait des comptes pro-Daesh qui allaient tweeter sur les tendances sur Twitter. Ils allaient saisir des mots-clés qui faisaient le buzz, pour parler avec un anglicisme, et derrière, ils s'inséraient sur ces fils, et derrière, ils produisaient, ils diffusaient leur propagande. Bon, ça a été rapidement détecté par tout un tas d'algorithmes, mais ça a été quand même une réalité pendant longtemps. Là, c'est un peu la version à grande échelle, c'est-à-dire, ils se saisissent de l'actualité internationale et d'un acte gravissime de guerre qui serait susceptible de totalement reléguer les questions djihadistes au 15e ou au 20e plan de l'actualité, pour tout d'un coup s'insérer là-dedans et dire « Regardez, nous on existe et la preuve, on en parle aujourd'hui ». Donc, ils réussissent d'une certaine manière à attirer l'attention. Donc ça, c'est un point. L'autre élément que je voulais évoquer avec toi sur la base de cette question, et c'est ce que je développe dans le tract, c'est au cœur du tract, c'est de bien comprendre que le djihadisme a ses cycles, en fait. Il a des cycles, et ça, c'est ce qu'on a du mal à, encore une fois, à comprendre, avec des marées hautes et des marées basses. Et ce que je montre, c'est que depuis 30 ans, il y a eu trois cycles à chaque fois une décennie, dans les années 90, dans les années 2000 et dans les années 2010, et qu'à chaque fois, on a eu une marée haute. Donc, la marée haute, quand le djihadisme est visible, qu'il y a des attentats qui sont commis, qu'il y a des organisations comme Al-Qaïda ou plus tard Daesh qui vont l'incarner, qui vont gagner en visibilité en commettant des attentats comme le 11 septembre, comme la campagne de terreur entre 2015 et 2017 en Europe, etc. Bref, c'est ce que spontanément l'auditeur qui nous écoute considère être du djihadisme, c'est-à-dire des terroristes qui commettent des attentats, qui sont très visibles, qui ont une organisation, c'est des individus en kalachnikov, revendicatifs, etc. Ça, à la limite, ça pose pas trop de problèmes de compréhension. C'est assez clair, c'est assez explicite. Mais ce qu'on vient de comprendre, c'est que ces moments de pic, donc typiquement dans la première cycle, ça va être l'affirmation d'Al-Qaïda qui va conduire au 11 septembre. Dans la décennie 2000, ça va être toute la partie au milieu des années 2000, avec les attentats de Londres de 2005, de Madrid de 2004, et puis tout un tas de tentatives d'imposition d'un État islamique en Irak au même moment. Et puis, au milieu des années 2010, le pic, c'est Daesh qui se construit comme un califat et qui va califat entre guillemets, et qui va mener une campagne de terreur en Europe. Et à chaque fois, ces trois pics, ça s'est traduit par la formation de ce qu'ils appelaient un émirat islamique en Afghanistan, qui accueillait Al-Qaïda dans les années 90, d'un État islamique d'Irak au milieu des années 2000 et d'un califat islamique en Irak et en Syrie qui était Daesh. Donc, à chaque fois, une entité, une enveloppe religieuse de plus en plus grande. Donc, un appétit, en fait, de plus en plus grand. À chaque fois, ils ont attiré de plus en plus de monde. Et les campagnes de terreur, donc inégales, mais ont toujours visé à un peu plus le cœur des démocraties occidentales. Et donc, dans tout ça, ce schéma-là, ça, on les voit bien, les pics. Ce qu'on a du mal à comprendre, c'est ce qui s'est passé entre ces deux pics, c'est-à-dire ce que moi, j'appelle la marée basse et ces phases de faiblesse. Eux-mêmes, d'ailleurs, ils ont théorisé d'une certaine manière ces cycles à travers tout un tas d'idéologues dont ils s'inspirent, qui sont issus de la frange radicalisée des frères musulmans égyptiens, des frères Qotob notamment. Et c'est quelque chose, c'est comme ça que leur activisme aussi a été pensé à la base. C'est-à-dire, il y a des phases d'activisme visibles et puis des phases de reconfiguration, de recrutement dans les périodes où ils se considèrent être en infériorité dans le bras de fer qu'ils mènent contre ce qu'ils désignent comme l'ennemi. Et ça, ce que je montre, c'est que c'est là où tout se joue, en fait. C'est-à-dire que quand arrivent les pics, c'est presque déjà trop tard, puisque ça signifie qu'ils ont récupéré des capacités d'action. Et donc, en fait, nous, on a eu tendance, après le 11 septembre 2001, il y a une réaction américaine très forte qui s'appelle la guerre contre la terreur, qui va détruire, qui va renverser le gouvernement des talibans qui refusaient de livrer Al-Qaïda. Et donc, entre 2001 et 2003-2004, il y a une vraie baisse de la menace et de l'activisme djihadiste, puis aussi il y a le développement d'un arsenal juridique qui permet d'arrêter les relais d'Al-Qaïda en Europe, etc. Mais à partir de 2004, avec le djihad en Irak, il y a un regain et qui va se traduire par les attentats, les premiers attentats en Europe. Donc là, à nouveau, prise de conscience, ça va se traduire par la destruction de cet État islamique d'Irak à la fin des années 2000 et à nouveau une sorte de répit. À cette époque-là, fin des années 2000, début des années 2010, si on en croit la plupart des observateurs sur le sujet, le djihad global est vaincu. En plus, ça arrive au moment où, en 2011, Ben Laden est tué dans un raid américain. Anwar El Awlaki, qui était l'un des lieutenants principaux d'Al-Qaïda, un Américain yéménite, est tué, une frappe de drone au Yémen. Donc pareil, on dit, tiens, Al-Qaïda est quand même très, très affaibli. C'est au moment aussi des printemps arabes, qui sont ces révoltes pro-démocratiques dans le monde arabe, qui sont un peu l'antithèse finalement du projet djihadiste. Donc tout ça crée un enthousiasme et on dit bah finalement tout est terminé. Sauf que en parallèle se développe la crise syrienne et qu'un an plus tard on voit Al-Qaïda débarquer en Syrie et puis deux ans plus tard une sorte de projet qui va émerger, tout ça qui est Daesh, et avec là une nouvelle vague qui cette fois est beaucoup plus forte. Donc on n'avait pas compris à cette époque-là collectivement que c'était pas du tout la fin du djihad global, c'était une phase de reconfiguration. Et là, on le voit bien, depuis que Daesh s'est effondré sous sa forme territoriale au Levant, on est en train de reproduire les mêmes impensées. Moi, je suis à Princeton, aux États-Unis, je suis frappé de voir que le débat américain considère que le djihadisme s'est terminé, mais presque parfois dans les mêmes termes, utilisant les mêmes termes qu'il y a 10 ans, quand ils expliquaient que le djihad global était terminé. Et là, je pense notamment à la tribune... un long article de Farid Zakaria, qui est vraiment un journaliste extrêmement réputé, d'ailleurs souvent passionnant, hein, aux États-Unis, rédacteur au Washington Post, figure un peu vedette de CNN, etc., qui écrit en avril dernier vraiment un long article expliquant voilà, le djihadisme finalement est en train de disparaître et on est sorti de cette phase qui s'était ouverte avec le 11 septembre 2001. La réalité, non. On peut détruire une organisation en Syrie et en Irak comme ça a été le cas avec Daesh. Et d'ailleurs, il en reste plein de morceaux, on pourra en parler, qui sont encore actifs. C'est pas pour autant qu'on détruit une idéologie. Et l'idéologie peut tout à fait continuer de se diffuser alors même que les groupes qui l'incarnaient sont en difficulté, comme c'est le cas d'Al-Qaïda ou Daesh. Et c'est ça qu'il faut comprendre, c'est pour ça qu'il faut s'intéresser aux causes, et notamment aux causes de la diffusion du djihadisme en Europe, parce que désormais, c'est une réalité européenne. Et ça, c'est tout mon propos. Et donc là, c'est dans cette période-là de creux, au moment où justement on a tendance à se dire que finalement c'est terminé, qu'il faut au contraire redoubler d'intérêt pour comprendre ce qui joue dans les milieux djihadistes et pour comprendre comment eux, ils essayent de rebondir. Et ça, c'est, je crois que c'est insuffisamment fait et même insuffisamment compris, quoi, ce simple mode de fonctionnement du djihadisme. Et c'est ça que j'essaye d'expliquer dans le tract.
Bien sûr. Non, c'est hyper bien fait d'ailleurs. Et donc là, on est à marée basse, si je reprends tes termes. On a une idée, enfin, du coup, puisque ces cycles, ça fait 30 ans qu'ils se mettent en place, on a une idée de quand ça va revenir à marée haute, entre guillemets.
C'est la question à un milliard, quoi. Mais.
Et je te la pose.
c'est me donner bien trop d'importance. Non, je pense qu'en fait, ce qu'il faut voir, c'est que c'est un peu. Ta question, elle me fait penser à une question qui avait été posée au chef de la rubrique technologie du Washington Post, justement. Et un de ses collègues journalistes lui disait bah, toi qui es au courant de tout, c'est quoi les inventions de demain, les technologies qui vont révolutionner Et lui, il disait, bah, avant de commencer par te dire ce que j'envisage être les inventions technologiques de demain, je pourrais commencer par disserter sur toutes les révolutions technologiques qui existent déjà, qui ont déjà été avalisées et dont on n'a pas conscience. Et j'avais remarqué cette formule comme étant assez amusante parce qu'en fait c'est un peu le cas. C'est avant même de prédire l'évolution de ces dynamiques en Europe et ailleurs, eh ben on peut déjà parler de ce qui se passe. Et là c'est vrai que le paysage, on est à marée basse, mais quand même il y a des soubresauts. Il y a déjà l'Afghanistan. C'est extrêmement important de comprendre l'importance de l'Afghanistan dans ce schéma général. L'Afghanistan, donc, comme les auditeurs, les auditrices le savent, a été donc pendant 20 ans occupé par les États-Unis, qui soutenaient un gouvernement qui était on va dire, essayer de mettre en place des réformes institutionnelles qui allaient dans le sens d'une démocratisation du pays. En tout cas, c'était comme ça que c'était vendu, mais qui, surtout qui a les États-Unis portaient à bout de bras, à coups de milliards de dollars, une armée qui était censée résister contre les talibans. Et en fait, ils avaient un calendrier de retrait qui se terminait au 31 août. Et avant même le retrait officiel des États-Unis, les talibans avaient repris le pouvoir à Kaboul avec une armée afghane qui, dans la plupart du temps, n'avaient pas combattu, et pas parce qu'ils étaient particulièrement lâches, comme je l'ai entendu dans le débat public de façon un peu honteuse, mais parce qu'à un moment donné, ils étaient dans une situation où ils étaient sourds et aveugles face à un ennemi qui avançait, et ils n'avaient même plus les moyens de se battre, avec des officiers qui faisaient défection partout, et donc, je veux dire, sur le terrain, le rapport de force était plus tenable. Et donc, dans cette logique-là, le retour des talibans au pouvoir en Afghanistan, ça a été un énorme message envoyé dans toute la galaxie islamiste, mais particulièrement entendu par les djihadistes, qui consiste à dire, bah, vous voyez, on a fait le dos rond pendant 20 ans face à la plus grande armée du monde qui, finalement, n'a pas réussi à construire l'État. C'était toute la stratégie de state building qui était proposée par les États-Unis. Et ils disent, bah, en fait, nous, on a fait du state building. On a construit nos réseaux au sein de la population afghane, au sein des tribus, et on a attendu notre heure. Et puis en fait, l'édifice américain s'est écroulé comme un château de cartes parce que nous, on avait mieux construit. On avait pris en compte la dimension tribale, on avait pris en compte la dimension sociologique, religieuse, etc. Et puis, en fait, quelque part, ils avaient fait du terrain. Ils avaient fait de la sociologie et on a pu récupérer le pouvoir. Et après, qu'est-ce que va devenir l'Afghanistan aux mains des talibans? On voit déjà que le pays est en proie à la pire crise de son histoire, probablement une situation encore pire qu'à l'époque de post-guerre civile de 92. Donc, bon, voilà, à la limite, c'est les talibans, ça, ils s'en moquent puisque pour eux, l'important, c'est d'appliquer ce qui considère être la charia. Mais ça a été quand même un message qui a été assez passé, qui a été assez fort, parce que en creux, il souligne un échec américain, et puis il vient valider un peu une incompréhension des États-Unis de la région, qui considère qu'en fait, il fallait se retirer d'Afghanistan parce qu'il était temps. Et ça, c'était ce qu'on entendait dans les cercles américains. Moi, encore une fois, j'ai suivi ça de près aux États-Unis, et l'idée finalement, c'était de dire, bah, il est temps de faire la paix. Mais mon interrogation face à ça, c'est qu'il faut être deux pour faire la paix. Or, là, on était face à des talibans qui, eux, n'ont jamais renoncé ni à leur projet. Tout au plus, ils ont accepté que les États-Unis se retirent sans leur tirer dessus, quoi. Mais là, ça, c'est une situation qui est quand même, qui pour l'instant on n'est pas au retour de l'Afghanistan des années 90 qui hébergeait Al-Qaïda et Al-Qaïda qui programmait de frapper les États-Unis, mais on est au retour d'une situation qui peut être très problématique dans une région de crise où rien n'est réglé. Et les Américains sont juste retirés de cette situation en disant maintenant ça ne nous concerne plus, mais finalement il y a tout qui est prêt à repartir. Le deuxième aspect, c'est la situation dans le nord syrien. Là aussi, ça couvre un peu et il faut suivre de près cette situation parce que finalement, la guerre est terminée au sens où c'est le régime de Bachar al-Assad soutenu par les Russes qui a, sur le terrain militairement, fini par vaincre toute forme d'opposition. Mais on a dans le nord-est syrien une situation où on a l'Iran, la Russie, la Turquie, les forces de l'armée syrienne, les forces kurdes qui sont présents dans un espace de 300 km², avec aussi une présence de forces spéciales américaines, sur une situation qui est, par définition, non pérenne. Donc, il n'y a pas de règlement politique de la crise syrienne. Et on a une situation où, au milieu de ça, on a des camps avec des dizaines de milliers de femmes et d'enfants, comme le camp de Al-Hol, dans le nord syrien, ou le camp de Ar-Roj, où là, pareil, la situation n'est pas pérenne. Ce sont des gens qui ont rejoint Daesh, souvent qui ont eu des enfants sur place, et qui sont tenus donc, dans ces camps, qui sont des espèces de gigantesques villes fermées, mais à ciel ouvert. Pareil, situation non stable. Et au milieu de ça, il y a des prisons où là, il y a les hommes qui ont combattu pour Daesh, qui sont détenus dans des conditions souvent effroyables. Et on le voit, il y a eu une attaque très récemment, là en janvier, d'une de ces prisons par des groupes proches de Daesh, qui sont en clandestinité dans cette région et qui, le fantasme, ça serait d'attaquer une prison pour libérer un maximum de combattants et de revenir en force. Et donc, on voit là, il y a encore une fois beaucoup de forces qui essayent de contrôler cette situation, mais tôt ou tard, il va falloir régler cette situation dans le nord-est syrien qui, pour l'instant, encore une fois, est un grand point d'interrogation. Et puis, il y a la question du Mali, et plus largement de la situation djihadiste en Afrique subsaharienne, avec désormais une gangrène, on le voit, de Boko Haram quasiment en Afrique de l'Ouest. Donc là aussi, il y a une grande situation d'instabilité qui, là encore, pose la question de la...